Trois jours après, quatre archers du grand prévôt nous vinrent prendre, et après nous avoir liés et mis les menottes aux mains, nous conduisirent à Lille, en Flandre, où la chaîne des galériens s'assemblait. Nous arrivâmes le soir à cette dernière ville, n'en pouvant plus de fatigue d'avoir fait ces cinq lieues à pied, et très incommodés de nos liens. On nous mena à la prison de la ville où est la tour de Saint-Pierre, destinée pour les galériens à cause de l'épaisseur de ses murs. En entrant dans la prison, le geôlier nous fouilla partout, et comme il se trouva là, soit par hasard ou de dessein prémédité, deux pères jésuites, ils nous prirent nos livres de dévotion et notre sentence sans nous avoir jamais voulu rendre ni l'un ni l'autre. Et j'entendis que l'un de ces pères disait à l'autre, après avoir lu la dite sentence, que c'était une grande imprudence au Parlement de donner copie authentique de pareilles pièces. Après cette visitation, on nous conduisit au cachot des galériens dans la tour de Saint-Pierre, l'une des plus affreuses demeures que j'ai jamais vues. C'est un spacieux cachot, mais si obscur, quoi qu'il soit au second étage de cette tour, que les malheureux qui y sont ne savent jamais s'il est jour ou nuit, que par le pain ou l'eau qu'on leur porte tous les matins. Et qui pisait, on n'y souffre jamais de feu ni de lumière, soit lampe ou chandelle. On y est couché sur un peu de paille toute brisée et rongée par des rats et des souris, qui y sont en grand nombre et qui mangeaient impunément notre pain, parce que nous ne les pouvions voir ni nuit ni jour pour les chasser. En arrivant dans ce cruel cachot, où il y avait une trentaine de scélérats de toute espèce, condamnés pour divers crimes, nous ne pûmes savoir leur nombre qu'en le leur demandant, car nous ne voyions pas l'un l'autre. Leur premier compliment fut de nous demander la bienvenue sous peine de danser sur la couverture. Nous aimâmes mieux donner deux écus de 5 livres-pièces, à quoi ces scélérats nous taxèrent sans miséricorde que d'éprouver cette danse. Nous la vîmes exercer 2 jours après un misérable nouveau venu, qui la souffrit plutôt par disette d'argent que par courage. Ces malheureux avaient une vieille couverture de serpillière sur laquelle ils faisaient étendre le patient, et 4 forçats des plus robustes prenaient chacun un coin de la couverture, les levant aussi haut qu'ils pouvaient et la laissaient tomber ensuite sur les pierres qui faisaient le plancher du cachot. Et cela par autant de reprises que ce pauvre malheureux était condamné, suivant son obstination à refuser l'argent, à quoi on le taxait. Cette estrapade me fit frémir. Ce malheureux avait beau crier, il n'y avait aucune compassion pour lui. Le geôlier même, à qui va tout l'argent que cet exécrable jeu produit, n'en faisait que rire. Il regardait par le guichet de la porte et leur criait « Courage, compagnon !» Ce misérable était tout moulu de ses chutes et on crut qu'il en mourrait. Cependant, il se remit. Quelques jours après, j'eus à mon tour une terrible épreuve à essuyer. En voici le détail. Tous les soirs, le geôlier et 4 grands coquins de guichetiers, accompagnés du corps de garde de la prison, venaient faire la visite du cachot, pour voir si nous ne faisions pas quelques tentatives pour nous évader. Tous ces gens-là, au nombre d'une 20aine, étaient armés de pistolets, d'épées et de baïonnettes au bout du fusil. Ils visitaient ainsi les 4 murailles et le plancher fort exactement pour voir si nous ne faisions pas quelques trous. Un soir, après qu'ils eurent fait la visite, et comme ils se retiraient, un des guichetiers resta le dernier pour fermer la porte et le guichet. Je m'amusai à lui dire quelques paroles, et comme je vis qu'il me répondait assez aimablement, je crus l'avoir un peu apprivoisé. Je m'avisai donc de le prier de me donner le bout de chandelle qu'il tenait à la main pour voir à chercher un peu notre vermine, mais il n'en voulut rien faire et me ferma le guichet au nez. Alors je dis assez haut, ne croyant pas cependant le guichetier assez proche pour m'entendre, que je me repentais de ne lui avoir pas arraché des mains son bout de chandelle, car je l'avais eu belle pour cela lorsque je lui parlais au guichet. Mon drôle m'entendit et ne manqua pas d'en faire son rapport au geôlier. Le lendemain matin, que tous mes camarades de cachot étaient levés, et chantaient les litanies à leur ordinaire, sans quoi il n'aurait eu aucune charité des jésuites qu'il a donnée tous les jeudis, et il n'y avait que moi qui étais demeuré couché sur mon pot de paille, et je m'étais endormi. Lorsque je fus éveillé par plusieurs coups de plat d'épée qui portaient à plein sur mon corps, n'ayant que ma chemise et ma culotte, je me lève en sursaut, et je vois le geôlier, l'épée à la main, les 4 guichetiers et tous les soldats du corps de garde, tous armés jusqu'aux dents. Je demandai pourquoi on me maltraitait ainsi. Le geôlier ne me répondit que par plus de 20 coups de plat d'épée. Et le guichetier au bout de chandelle me donna un si terrible soufflet qu'il me renversa. M'étant relevé, le geôlier me dit de le suivre, et voyant que c'était pour me faire encore plus de mal, je refusais de lui obéir, avant que je susse par quel ordre il me traitait ainsi, que si je le méritais, ce n'était qu'au grand prévôt à ordonner de mon châtiment. On me donna encore tant de coups que je tombai une seconde fois. Alors les 4 guichetiers me prirent, 2 aux jambes et 2 aux bras, et m'emportèrent ainsi à mon corps défendant, hors du cachot, et me descendirent, ou plutôt me traînèrent comme un chien mort du haut des degrés de cette tour en bas dans la cour, où étant, on ouvrait la porte d'un autre escalier de pierre qui conduisait dans un souterrain. On me fit aussi dégringoler ces degrés sans les compter, quoique je crois qu'il y en avait pour le moins 25 ou 30, et au bas, on ouvrit un cachot à porte de fer qu'on nomme le cachot de la sorcière. On m'y poussa et on ferma la porte sur moi, et puis ils s'en allèrent. Je ne voyais non plus dans cet affreux souterrain qu'en fermant les yeux. J'ai voulu faire quelques pas pour trouver quelque peu de paille en tâtonnant, mais je m'enfonçais dans l'eau jusqu'à demi-jambe, eau aussi froide que la glace. Je retournai en arrière et me plaçai contre la porte, dont le terrain était plus haut et moins humide. En tâtonnant, j'ai trouvé un peu de paille sur laquelle je m'assis. Mais je n'y fus pas 2 minutes que je sentis l'eau qui traversait la paille. Pour lors, je crus fermement qu'on m'avait enterré avant ma mort et que cet affreux cachot serait mon tombeau si j'y restais 24 heures. Une demi-heure après, le guichetier me porta du pain et de l'eau qu'il mit par le guichet dans le cachot. Je lui rejetai sa cruche et son pain en lui disant « Va dire à ton bourreau de maître que je ne boirai ni ne mangerai que je n'ai parlé au grand prévôt. » Le guichetier s'en alla et dans moins d'une heure, le geôlier vint seul avec une chandelle à la main, sans autres armes qu'un trousseau de clés. Et ouvrant la porte du cachot, il me dit fort doucement de le suivre en haut. J'obéis. Il me mena dans sa cuisine. J'étais sale, plein du sang qui m'avait coulé par le nez et d'une contusion à la tête que ces barbares guichetiers m'avaient faite en me laissant tomber et traîner la tête sur les escaliers de pierre. Le geôlier me fit laver mon sang, me mit un emplâtre sur ma contusion et ensuite me donna un verre de vin de canari qui me refit un peu. Il me fit une petite réprimande de mon imprudence touchant la chandelle du guichetier et m'ayant fait déjeuner avec lui, il me mena dans un cachot de sa cour, sec et clair, me disant qu'il ne pouvait plus me remettre avec les autres galériens après ce qui s'était passé. « Donnez-moi donc mon camarade avec moi, lui dis-je. « Patience, dit-il, tout viendra avec le temps. » Je restai 4 ou 5 jours dans ce cachot, pendant lesquels le geôlier m'envoyait tous les jours à dîner de sa table. Il me proposa un jour de nous mettre, mon camarade et moi, dans une chambre de sa prison, où il y aurait un bon lit et toutes les commodités requises, moyennant 2 louis d'or par mois. Nous n'étions pas fort pourvus d'argent. Cependant, je lui offris 1,5 louis jusqu'au temps que la chaîne partirait. Il n'en voulut rien faire, dont il se repentit. Car peu de jours après, nous fûmes mis dans une belle et bonne chambre, bien couchés et bien nourris, sans qu'il ne nous en coûtât rien, comme je le dirai tout à l'heure. Un jour, il me dit que mon camarade l'avait fort prié de me remettre avec lui et qu'il lui avait promis de le faire. « Eh bien, lui dis-je, descendez-le ici avec moi. »« Non, dit-il, il faut que vous retourniez avec les autres galériens dans la tour de Saint-Pierre. » Je vis bien qu'il nous voulait mettre dans la nécessité de lui donner les 2 louis d'or par mois pour nous mettre en chambre. Mais consultant notre bourse et considérant que si la chaîne ne partait que dans 2 ou 3 mois, nous ne pourrions y subvenir, je me tins ferme à l'offre que je lui avais faite. Si bien qu'il me remit dans la tour de Saint-Pierre avec les autres. Mon camarade qui me croyait perdu fut ravi de me sentir auprès de lui. Je dis sentir, car pour nous voir, nous n'avions aucune clarté pour cela. Un matin sur les 9 heures, le geôlier vint ouvrir notre cachot et nous appelant mon camarade et moi, nous dit de le suivre. Nous crûmes d'abord qu'il nous les allait mettre en chambre pour notre louis et demi, mais nous fûmes désabusés, car nous ayant sorti du cachot, il nous dit « C'est monsieur de Lamberti, grand prévôt de Flandre, et qui est le maître ici, qui veut vous parler. J'espère, dit-il, en s'adressant à moi, que vous ne lui direz rien de ce qui s'est passé dernièrement. Non, lui dis-je, lorsque j'ai pardonné, j'oublie, et ne cherche plus à me venger. » En disant cela, nous arrivâmes dans une chambre où nous trouvâmes monsieur de Lamberti, qui nous fit l'accueil le plus gracieux du monde. Il tenait une lettre de monsieur son frère, bon gentilhomme d'origine protestante, à 3 lieues de Bergerac. Mon père nous avait procuré cette recommandation. Monsieur de Lamberti nous dit donc qu'il était bien fâché de ne nous pouvoir procurer notre délivrance. « Pour tout autre crime, nous dit-il, j'ai assez de pouvoir et d'amis en cour pour obtenir votre grâce, mais personne n'ose employer pour qui que ce soit de la religion réformée. Tout ce que je puis faire, c'est de vous faire soulager dans cette prison et de vous y retenir autant que je voudrais, quoique la chaîne parte pour les galères. » Ensuite, il demanda au geôlier quelle chambre bonne et commode il avait de vide. Le geôlier lui en proposa 2 ou 3 qu'il rejeta et lui dit « Je ne prétends pas seulement que ces messieurs aient toutes leurs commodités, mais je veux aussi qu'ils aient de la récréation, et je prétends que tu les mettes dans la chambre à l'aumône. » « Mais monsieur, repartit le geôlier, il n'y a que des prisonniers civils dans cette chambre-là, qui ont des libertés qu'on ose donner à des gens condamnés. » « Eh bien, répondit monsieur de Lamberti, je prétends que tu les leur donnes ces libertés. » C'est à toi et à tes guichetiers à prendre garde qu'ils ne se sauvent de la prison. Donne-leur un bon lit et tout ce qu'ils souhaiteront pour leur soulagement, et cela pour mon compte, ne prétendant pas que tu prennes un seul d'eux. Allez, messieurs, nous dit-il, dans cette chambre à l'aumône. C'est la plus belle, la mieux aérée et la plus réjouissante de toute cette prison. Et outre que vous y ferez bonne chère sans qu'il vous en coûte rien, vous y amasserez de l'argent. Je prétends, dit-il encore au geôlier, que tu fasses, monsieur Marteil, prévôt de cette chambre. Nous remerciâmes de notre mieux M. de Lamberti de sa grande bonté. Il nous dit qu'il viendrait souvent s'informer à la prison si le geôlier observait ses ordres à notre égard et se retira. On nous mit donc dans la chambre à l'aumône et on m'en installa Prévost, au grand regret de celui qui l'était avant moi et que l'on plaça ailleurs. Cette chambre à l'aumône était fort grande et contenait 6 lits pour 12 prisonniers civils qui étaient toujours des gens de quelque considération et hors du commun. Et outre cela, 1 ou 2 jeunes drôles, ordinairement coupeurs de bourse ou prisonniers pour des crimes légers, qui servaient à faire les lits, la cuisine et tenir la chambre nette. Ils couchaient à un coin de la chambre sur une paillasse. C'était, en un mot, nos valets de chambre. La prévôté, dont j'avais eu l'honneur d'être gratifié, était un emploi assez onéreux. Celui qui est revêtu de ce titre dans la chambre à l'aumône est obligé de distribuer toutes les charités qui se font à cette prison. Elles sont ordinairement considérables et se portent toutes dans cette chambre. Il y a un tronc qui pend avec une chaîne d'une des fenêtres pour les passants qui veulent y mettre leur charité. Le prévôt de la chambre, qui a la clé de ce tronc, l'ouvre tous les soirs pour en retirer l'argent et le distribuer à tous les prisonniers, tant civils s'ils en veulent que criminels. Outre cela, tous les matins, les guichetiers vont avec des charrettes ou tombereaux par toute la ville recueillir les charités des boulangers, bouchers, brasseurs et poissonniers, chacun donnant de leur denrée. Ils vont aussi au marché aux herbes, à celui des tourbes et autres, et toute cette collecte se porte à la chambre à l'aumône pour être partagée et distribuée dans toutes les chambres par le prévôt, à proportion que chaque chambre a le prisonnier, dont le geôlier lui donne une liste chaque jour et dont le total allait, lorsque j'y entrais, à 500 ou 600. Quoique je fusse devenu le distributeur général de ces aumônes, je ne pus cependant remédier à un abus qui m'empêchait de faire parvenir rien aux prisonniers destinés pour les galères. Le geôlier recevait leur part de l'argent du tronc pour l'employer, disait-il, à leur faire de la soupe. Mais bon Dieu, quelle soupe! C'était ordinairement des sales et vilaines tripes de bœuf qu'il leur cuisait avec un peu de sel, dont l'odeur seule faisait vomir. 6 semaines après avoir habité cette heureuse chambre, M. de Lambertie nous y vint voir et nous dit que la chaîne devait partir le lendemain pour Dunkerque, où étaient 6 galères du roi. Qu'il nous exempterait de partir en nous faisant passer pour malades. Qu'il fallait que nous restassions ce jour-là au lit jusqu'à ce que la chaîne fût partie, ce que nous fîmes. Et cela nous procura de rester dans ce bien-être encore 3 mois, après quoi une autre chaîne partit, avec laquelle nous partîmes aussi par l'occasion que je vais dire.